Dieu soit béni. Amen. Voilà, je vous salue, vous qui nous visitez, vous qui êtes là pour la ou les premières fois. Voilà, soyez bénis, et ceux qui ont l'habitude de venir, soyez également bénis. Alléluia. D'ailleurs, vous l'êtes. Je ne sais pas s'il y avait besoin de le rappeler ce matin. Vous êtes bénis. Alléluia. Alors, c'est l'occasion qui nous a été donnée d'apporter notre reconnaissance à notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, on va aller directement à la parole de Dieu. On fera les annonces tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume. Avec ce titre, au niveau du partage, c'est l'enseignement de chambre haute. Parce qu'au travers d'une certaine situation, une certaine histoire que l'on va lire, à un moment donné, il va y avoir la chambre haute avec certaines choses qui vont être dans cette chambre et qui, ce matin, vont nous parler. On va lire, donc, 2 Rois 4, 8. Nous lisons donc ceci. « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen, amen. Donc pour les lecteurs assidus de la parole que vous êtes ou que nous sommes censés être, il y a donc un enseignement tellement profond au niveau de cette histoire-là, et on va voir ce que l'on peut en tirer pour chacun d'entre nous, ces ustensiles que nous trouvons dans cette chambre haute. Nous avons lu ensemble que c'était une chambre haute. Alors pourquoi haute? C'est parce qu'en fait, elle était au-dessus des autres pièces. Alors évidemment, que vous allez voir qu'il va y avoir un symbolisme par rapport à la foi. Et régulièrement, nous avons besoin de pouvoir nous élever au-dessus de certaines choses. Au-dessus de certaines manières de penser. De ne pas avoir une pensée simplement étriquée, mais avoir la pensée de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Jésus soit le centre ». Quelle belle prière, hein. Et je crois que cette prière, elle doit être vraiment fondamentale dans notre vie. Seigneur, que tu sois au centre de ma vie. Si le Seigneur est au centre de ma vie, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va rayonner et à lui seul soit toute la gloire. Donc nous voyons ici, tout d'abord, que cette pièce était au-dessus des pièces de la maison. Et il y a eu cette construction. On bénit Dieu parce que encore on trouve, même aujourd'hui, des hommes, des femmes, un couple, qui va se lever pour l'œuvre de Dieu. Et qui va dire, mais moi je veux participer à l'œuvre de Dieu. Il y a comme un désir de pouvoir servir le Seigneur, tout ça parce que on est dans la reconnaissance de ce qu'un jour le Seigneur nous a bénis, et comme il nous a bénis, on veut le bénir également. C'est la prière qu'a fait Vincent, le Seigneur nous bénit tous les jours. On a de quoi donc se nourrir, se vêtir, et donc le Seigneur, il nous bénit. Alors des fois, on aimerait avoir plus, mais voilà, ça c'est les aléas de la vie. Et le Seigneur nous demande de pouvoir lui restituer une part. Alors nous, en tant que peuple français, ça vient nous bousculer un peu. Ça vient nous bousculer parce qu'on a un souci avec ça. Mais c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. C'est même un principe, vous savez quoi? Un principe divin. Et un principe de bénédiction, on l'oublie souvent, que c'est un principe de bénédiction de restituer, de redonner au Seigneur. Et donc, ce couple-là va avoir cette idée, il y a un homme de Dieu qui vient nous visiter, il vient nous faire du bien, et nous, à notre tour, ce qu'on veut, c'est lui faire du bien. Et ils vont construire cette pièce, et cette pièce, pour nous, ce matin, elle revêt un caractère spirituel. On va le voir, on va le détailler. Tout d'abord, il est dit que dans cette chambre haute, évidemment, position élevée. Il était question d'une chambre haute avec cette précision, petit détail, elle était petite. Afin qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse être là pour avoir cette intimité avec Dieu et recevoir les messages de Dieu. Belle image pour nous tous. Donc cette image spirituelle. Et finalement, quand on pense à position élevée, la position, c'est cette position que tient le Seigneur. Il est au-dessus de tout. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut le dire? Qu'il est au-dessus de tout. Et non seulement le dire, mais le vivre. Que peut-être, là, aujourd'hui, vous traversez des moments, une situation compliquée, on cherche solution à certaines choses que nous traversons, et de se dire, mais Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout. Et ça, c'est des paroles de foi. C'est des paroles qui vont m'exhorter vraiment à fixer mes regards vers le Seigneur. Parce que quand je lis dans la parole, vous m'avez entendu le dire souvent, hein, des fois, c'est, certaines histoires, si elles n'étaient pas dans la parole, on aurait de la difficulté à le croire. Mais on le croit parce que c'est dans la parole et Dieu n'est pas un menteur, Dieu ne ment pas. Alors le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous, qu'il allait nous accompagner, qu'il allait nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Et j'espère que nous sommes reconnaissants parce qu'il n'y a rien de tel quand à un moment donné le Seigneur nous bénit et quand il n'y a pas de reconnaissance. Ce matin, nous avons eu l'occasion d'apporter notre reconnaissance au Seigneur. C'est bon également de crucifier notre chair. C'est bon de dire à mon âme, loue l'Éternel, qu'il sorte de ma bouche, voilà, une louange à notre Seigneur. Alléluia, amen. Et on devrait se bousculer dans les temps que nous avons, que le Seigneur nous donne, et que surtout nous ne vivons pas avec les regrets en disant j'aurais dû, j'aurais pu, hein, mais que on puisse chacun prendre notre place pour louer et adorer le Seigneur. Amen, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il y a même un verset qui nous dit, Ésaïe 57, verset 15. On a l'endroit ici précis où le Seigneur habite. Et c'est intéressant, hein, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, évidemment, mais je suis avec l'homme, comment ? Contrit et humilié, afin de ranimer les esprits, humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia, amen. On voit ici donc que le Seigneur habite les lieux élevés et qu'il est dans la sainteté, parce qu'il n'y a rien d'impur qui peut se présenter dans la présence de Dieu. Alors nous-mêmes, nous étions des impurs, hein, à cause du péché qui nous enveloppait facilement. Et puis le Seigneur, on l'a accepté dans notre cœur, il est venu, il nous a changé, il a changé notre nature, et il a fait de nous des enfants de Dieu, et ça c'est vraiment extraordinaire de pouvoir le considérer encore ce matin, y réfléchir par rapport à ça. Donc on voit cette position élevée, cette chambre haute, et dans cette construction, évidemment, il y a des choses tellement logiques, mais elles sont tellement logiques que des fois, on passe par-dessus. On a lu ensemble qu'ils vont commencer à construire des murs. Évidemment, pour porter le toit, il vaut mieux. Construire des murs. Et il y a cet enseignement pour chacun d'entre nous ce matin. Dans nos vies, il y a des murs à bâtir. Il y a des murs à construire. Et le Seigneur, il a dit qu'il voulait notre participation. Hors de question que je puisse m'asseoir et de regarder le Seigneur œuvrer dans ma vie. Vous le savez maintenant que toutes les promesses sont conditionnelles. Si on se bouge pas, si on recherche pas, s'il n'y a pas une motivation dans notre cœur à changer, à élever notre niveau, à aller plus loin avec le Seigneur, on restera jusqu'au retour du Seigneur au même niveau. Alors c'est la mauvaise nouvelle ce matin. Mais peut-être que ce message, il est là pour venir nous interpeller, venir nous bousculer un peu. Hein, donc c'est ce que fait la parole de Dieu. Donc des murs à bâtir. Il y a des séparations à mettre en place. Des fois, il y a certaines conciliations. On ne sait pas comment se positionner par rapport donc justement à une situation. On le voit hein, dans la parole. Des fois, il faut être radical. Il faut séparer. D'ailleurs, c'est ce que fait la parole. Elle vient séparer. Elle vient enlever certaines choses. Elle vient couper cette parole. Et souvent, nous, avec nos yeux hein, de chrétiens occidentaux, on voit simplement que, d'un biais, cette parole qui vient me réconforter, qui vient me rassurer dans la position dans laquelle je me trouve, position spirituelle. Et c'est la réalité des choses. Et nous devons le prendre comme ça. Mais des fois, on oublie l'autre partie où la parole vient enlever, couper, censurer. Pourquoi ? Pas pour nous faire du mal. Ça serait pas bien connaître Dieu. C'est pour que nous portions davantage de fruits, que nous puissions évoluer, que nous allions plus loin. J'espère que vous n'avez pas chanté de façon hypocrite ce matin, Jésus soit au centre. Ou parce que la mélodie est jolie. Ou parce que les musiciens étaient excellents ce matin. Oh, il y a un petit grimace qui est là. une petite grimace. Si, hein, on va mettre 9 sur 10. Alors, 9, c'est pour... voilà. Et en tout cas, c'était excellent. Mais en fait, est-ce ce que je chante, est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, il va y avoir un fruit. Et donc, on voit qu'il faut impérativement, quand il y a ces murs, bâtir des murs de séparation. Un mur, vous serez d'accord avec moi, c'est la logique, il sert également à protéger. Ici, nous sommes en protection, nous avons des murs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la terre tremble. Dès qu'il y a un phénomène un peu particulier, vous avez vu, c'était mardi, ou mercredi, ou jeudi, je ne sais plus, à un moment donné, un tonnerre qui sort de l'ordinaire, et de suite, ça vient nous interpeller. Jeudi ? Oui. Voilà. Oui, tout à fait, jeudi. Je me rappelle où j'étais. Et donc, ça nous a, on s'est arrêté, on était visiter quelqu'un. Et puis on s'est arrêté d'un coup parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas naturel. Hein. On l'a vite discerné. Donc ici, nous sommes en protection. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Quand on vient auprès de lui et quand ces murs sont élevés, nous sommes en protection et nous ne craignons rien. Mon frère et ma sœur, tant que tu restes dans la sphère de la protection de Dieu, dans les murs de Dieu, tu ne crains rien. J'ai eu un demi-amen, c'est pas mal déjà. Je m'en contente pas, mais je me dis, bon, c'est un bon début. Hein. Donc, un demi-amen, parce qu'il n'était pas clair. Il n'était pas clair. Donc, les murs de protection. Quand on élève un mur, c'est également élever un mur de prière. On pense au mur de lamentation, mais on n'est pas de ceux et de certains religieux qui remuent la tête contre un certain mur à mettre des prières dans les trous de ce mur pour que la prière, elle monte. Ce que le Seigneur attend, et on l'a lu, c'est un cœur contrit. Un cœur contrit, donc un cœur qui s'humilie devant le Seigneur. Et quand on s'humilie devant le Seigneur, notre orgueil, il va s'abaisser automatiquement parce qu'on considère que Dieu est grand, que Dieu est bon, il est merveilleux, alléluia. Il y a une certaine révérence à avoir par rapport à Dieu. Et pourtant, le Seigneur, il dit de chacun d'entre nous, mais désormais, vous êtes des amis. Vous avez un libre accès dans ma présence. Surtout, frères et sœurs, que personne, vraiment s'habitue à la présence de Dieu. Rentrer dans un certain mécanisme d'un culte. Tout à l'heure, elle a rappelé Jonathan. Voilà, le culte, vraiment, c'est tout une bénédiction à apporter au Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. C'est au-delà de ce que l'on peut dire. Mais c'est Seigneur, je réalise que cette semaine, j'ai entendu plusieurs, dire, Seigneur, cette semaine, tu nous as gardés. Seigneur, on a passé une semaine avec toi, encore une semaine nouvelle. Rien que pour cela, je te loue, Seigneur. Je dis à mon âme de te louer, à lui seul soit toute la gloire. Il y a un verset qui nous parle également que Dieu recherche des hommes et des femmes qui élèvent des murs. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux, donc parmi le peuple, un homme, on rajoute une femme, qui élève un mur. Qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. La fin de ce verset est dramatique. Mais je n'en trouve point. Pourquoi ? Préoccupé par des choses matérielles, préoccupé par mon bien-être. D'abord, si ça vient pas trop me déranger, s'il me reste un peu de temps, je vais l'offrir au Seigneur. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Le Seigneur veut qu'on réalise ce qu'on a chanté, qu'il soit au centre de nos vies. C'est d'abord lui. Et ensuite, si on a les bonnes priorités, il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent et qui sont alignés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Des fois, on prie, on cherche le Seigneur, on n'a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, il faut se poser les bonnes questions à un moment donné et s'arrêter. Il dit, Seigneur, pourquoi tu me réponds pas? Mais je le crois de tout mon cœur. D'ailleurs, souvent, vous me l'avez entendu dire, souvent dans les entretiens personnels. Cherchez le Seigneur. Aujourd'hui encore, en 2025, il parle. Et des fois, si vous l'entendez pas, vous avez simplement qu'une seule chose à faire. C'est enlever les doigts dans les oreilles pour laisser le Seigneur nous parler et nous montrer la voie, nous montrer la direction. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Dites-moi, faisons un constat ce matin. Vous ne trouvez pas que ce verset, on peut se l'attribuer dans la période que nous vivons? Vous ne trouvez pas que notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent comme un seul homme pour dire « Seigneur, sauve en faveur du pays ». D'ailleurs, j'espère que vous priez pour les autorités. Vous voyez comment le pays est ballotté, hein, sans prendre parti pour justement un parti politique ou quoi d'autre. On ne peut pas mélanger les deux ici. Mais une chose est certaine, c'est spirituellement. Quand on voit la certaine banalité, hein, on en avait parlé il y a quelques dimanches, de certaines choses abominables que la Bible condamne et qui aujourd'hui, c'est d'une banalité sans nom, ça devrait nous interpeller. On devrait pouvoir se mettre à genoux et implorer la grâce de Dieu. Seigneur, sauve. Seigneur, sers-toi comme d'un grand nombre, comme d'un petit nombre. Et nous sommes un petit nombre par rapport à la population toulousaine. On a vraiment besoin que l'Église se lève. Nous avons notre place à prendre et on le répète dimanche après dimanche. Nous vous en supplions, enlevez les doigts des oreilles et entendez ce que l'Esprit dit. Ce sont des moments tellement importants. Alors, la réaction à ce que je suis en train de vous dire, elle est simple. Soit on continue et on laisse couler, soit ça va nous percuter et on prend des résolutions. Et à partir d'aujourd'hui, il faut que les choses, elles changent. Et quand on a cette mentalité, j'appelle ça, moi, la mentalité du royaume. Quand on a cette mentalité, alors le Seigneur va faire de grandes choses avec nous, dans notre faiblesse. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire, mais c'est quand je suis faible, en fait, que je suis fort, quand je reconnais que j'ai besoin de Dieu, que nous avons besoin de Dieu. Vous n'êtes pas résolu qu'il y ait un seul membre de vos familles qui soit perdu. Ça se gagne dans la prière, dans l'intercession, en réclamant les âmes, alléluia, en implorant la grâce de Dieu. Mais déjà, si on a de la difficulté à louer Dieu, on va pas intercéder. C'est pas vrai. Parce que notre cœur ne sera pas contrit. On a besoin que de contrition, d'humilier nos âmes et enfin de capituler dans la présence de Dieu. Donc, on a dit qu'il y avait des murs à bâtir. Il y a également des murs à abattre. Le mur de l'incrédulité. Alors, est-ce que chrétien et incrédule va dans la même phrase? Eh bien, des fois, oui. Des fois, j'ai pu discuter avec certains frères, certaines sœurs, avec, dans leur bouche, un constat d'une certaine situation. Et moi, mon rôle de pasteur, c'est de conduire à la foi pour qu'il se passe quelque chose. Et de ramener à la foi en disant, OK, vous me faites un constat de telle ou telle situation. Alors, sans minimiser quoi que ce soit, on comprend, il y a des situations, elles sont compliquées, elles sont terribles à gérer au niveau émotionnel, journalier, c'est difficile. Mais avoir cette attitude de foi, cette mentalité de vainqueur et pas de vaincu, et de se dire, OK, la situation est là, mais moi j'ai un grand Dieu. Et Dieu marche avec moi, alléluia. Ça, ce sont des paroles de foi. Et j'attends sa bénédiction, j'attends sa grâce, j'attends sa délivrance. Et donc, quand on est dans cette attente, et quand on recherche le Seigneur, je vous promets que Dieu va intervenir. C'est les choses logiques. Abattre les murs de la souffrance. Il n'y a rien de tel que la souffrance. On nous a vendu, à un moment donné, un évangile où, venez à Jésus, tous vos problèmes seront réglés. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas vrai? On est dans la souffrance. Il y a même un verset dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 et il est dit « Celui qui veut donc marcher et vivre pieusement s'arme à la pensée de souffrir. » Ah ça, c'est pas populaire. Aujourd'hui, si on dit « Venez à Jésus et vous allez souffrir. » Ah c'est sûr que c'est pas un slogan qui va attirer les foules. Mais pourtant, la Bible, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi on marche à contre-courant? On est d'une autre mentalité. Il y a eu une séparation. J'ai bien aimé Yacouba quand il a dit que il a cité un verset du Nouveau Testament, quand il a dit que nous avons été transportés. On n'a plus rien à voir avec les choses du monde. Et le Seigneur va le dire, hein, pour nous préserver. Seigneur, je te demande de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'il y a cette mentalité. Et aujourd'hui, c'est dramatique que dans la plupart des églises, l'ambiance qui peut y avoir, c'est souvent voilà, c'est cet état d'esprit de défaite. Alors que nous avons un grand Dieu et que nous voulons, nous désirons. Mais le Seigneur, il cherche, comme on l'a vu, mais il ne trouve pas. La souffrance, le Seigneur veut déverser sa consolation également sur les affligés quand on souffre. Il y a quelqu'un ce matin qui est passé par des temps de souffrance et il a été consolé par Dieu. Eh oui, il y en a plusieurs. Alléluia. Ah, ça va nous encourager, peut-être toi qui passes par la souffrance ce matin, de te dire, ben, le Seigneur peut me sortir de là. Le Seigneur peut passer un baume dans mon cœur. Et quand on l'expérimente, c'est tellement bon. D'ailleurs, il y a eu un cri par rapport à un certain prophète qui va dire, mais n'y a-t-il pas un baume en Galade? Il pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un baume? Alors moi, je peux lui répondre à ce prophète. Bien sûr qu'il y a un baume qui vient réparer les souffrances, les blessures. Frères et sœurs, il serait tellement dommage de continuer à vivre notre marche chrétienne en gardant les mêmes souffrances, alors que le Seigneur, il est venu pour nous rendre libres, pour nous libérer de tout ça. Et si le Seigneur ne le fait pas, c'est peut-être qu'il y a une part qui te revient que tu ne fais pas. Réalisons ces pensées. La souffrance est des murs à abattre, des forteresses et des mensonges de l'ennemi. On dit que l'adversaire, il vient, donc c'est le père du mensonge, et il vient nous inculquer certains mensonges. Tu es un bon à rien, tu es un bon à rien. Ça, c'est des paroles de malédiction et des paroles de mort. Peut-être que quelqu'un l'a entendu dans sa jeunesse. Tu es un bon à rien. Ça, c'est des paroles, quand on les prend, on vit avec, et toute notre vie, on pense que finalement, on est bon à rien. Vous avez remarqué que quand on vient au Seigneur, première des choses, il va nous valoriser. Il dira, tu es mon enfant, je t'aime. Les forteresses, les mensonges à bannir. Peut-être qu'il devrait y avoir un ras-le-bol en disant, j'en ai assez de me faire voler par le diable, par l'ennemi, par l'adversaire. Parce que moi, je suis appelé à autre chose. Mais ce matin, peut-être, c'est un moment, un déclic où je dois enclencher certaines choses et me dire, mais en fait, Seigneur, ces forteresses, ces mensonges de l'ennemi, je n'en veux plus. Et quand on commence avec cette mentalité-là, la guérison commence à venir. Alléluia. Alors ça, c'était le mur. Et puis, dans cette pièce, il y a un lit. Un lit, inutile de faire le dessin... pour vous dire à quoi sert un lit, il sert à se reposer, à s'allonger. Alors, j'ai bien aimé, parce qu'il est dit que donc Élisée passait par Sunem. En fait, la définition de Sunem veut dire double lieu de repos, double lieu de repos. Alors déjà, un lieu de repos, c'est pas mal. Double lieu de repos. C'est comme si le Seigneur était en train de forcer, d'enfoncer pour nous dire, vous savez, quand on est auprès du Seigneur, ce lit représente un lieu de repos. Un repos physique est nécessaire à la vitalité de notre organisme. Si on ne dort pas assez, ça va avoir une incidence donc sur notre corps. Parce qu'on a été créé pour pouvoir se reposer. Donc le repos est tellement important. Mais se coucher avec un état d'esprit, se coucher avec la paix de Dieu. Psaume 4, verset 9. Le psalmiste, il dit, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Peut-être on pourrait se dire, mais cet homme, il n'a pas de problème, ou il n'a jamais eu de problème. Faux. Toute la Bible nous en parle, tous les hommes de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu que nous découvrons dans la Bible, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des difficultés. Mais c'est la gestion de ces problèmes qui diffère, qui change. Je me couche et aussitôt, je m'endors en paix. Là, il n'y a pas besoin de prendre un comprimé. Alors, je juge personne. Des fois, on a de la difficulté. Je m'endors en paix, cette paix que seul le Seigneur peut nous donner. Recherchez cette paix si vous l'avez perdue. Essayez de la retrouver dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. On a dit que le corps a besoin de repos, mais également l'être spirituel a besoin de repos. Et il y a un texte qui revient immédiatement à notre mémoire quand on parle de repos. Jésus qui fait cette déclaration, Matthieu 11, 28. Venez à moi. Qui ça? Vous tous. Vous êtes comment? Fatigués et chargés. Et donc, le fait de venir, c'est notre responsabilité. Je vous donnerai le repos. Le repos de Dieu, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement bénissant que de vivre ce repos, parce qu'en fait, on est constamment bombardé. Et mon âme, elle a besoin de repos. Alléluia. Le repos, pour une chose, reprendre des forces. C'est ça, hein. Isaïe 40, 29. Ici, c'est donc le prophète qui parle. Il parle de Dieu. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Non seulement il donne de la force, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. J'ai cette image, c'est-à-dire que quand on vient au Seigneur, donc il nous donne la force nécessaire, et non seulement il nous donne la force, mais pour tous ceux qui voilà, savent à quoi correspond, il augmente notre capacité. Si on est à 128 gigas, il va nous donner 256 ou 1 tera. En fait, hein, bon, pour ceux qui comprennent, pour d'autres, je vous donnerai donc l'interprétation du message à la sortie. En fait, il augmente la vigueur, et ça, c'est la mentalité de Dieu. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. En fait, ça va nous réconforter, ce verset, de savoir qu'on peut tomber en défaillance. C'est arrivé à des hommes de Dieu dans la Bible, des hommes que l'on prend comme exemple, et pourtant, eux-mêmes, ils ont fait des prières terribles, hein, peut-être qu'on n'a jamais faites. Seigneur, ôte-moi la vie. J'en peux plus, j'en ai marre. Hein, cet homme, Élie, assis sous un genêt. Et puis, d'autres hommes, le père de la foi, qui à un moment donné, donc, va désobéir au Seigneur. L'homme, selon le cœur de Dieu, j'aime bien le dire comme ça, hein, avec tout ce qu'il a fait, manigancer un meurtre, le cacher, et puis vivre comme si rien n'était. Il nous ressemble tellement. Et pourtant, le Seigneur leur a redonné de la force parce qu'à un moment donné, ils ont réalisé, amen, et il a augmenté la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc dans cette chambre haute, nous pouvons tout laisser aux pieds de notre Seigneur. On peut laisser nos peines, on peut laisser nos inquiétudes, on peut laisser nos incompréhensions. Celui qui est au milieu de nous ce matin a cette mentalité d'essayer de tout comprendre et de tout interpréter. Je vous promets que vous n'allez pas vous endormir en paix. Vous allez avoir de la difficulté à dormir. Je disais à quelqu'un cette semaine, qui me pose une question par message, des fois, ça fait partie un peu des mystères. Voilà, le Seigneur, par rapport à certains thèmes, il ne nous en dit pas trop. La curiosité, le mauvais penchant de la curiosité, c'est d'aller gratter et d'aller essayer de découvrir ce que la Bible ne dit pas. Ça, c'est terrible. En fait, là, quand on fait ça, on rajoute des paroles à la Bible. C'est fortement condamné, ça, dans la parole. Malheur à celui qui rajoute ou qui enlève. Alors, on peut apporter au Seigneur nos peines, nos inquiétudes, nos incompréhensions, comme on parle à un ami, sans révolte, avec un état d'esprit. Des fois, on est dans la révolte, hein. Alors, on peut lui apporter, hein, voilà, notre état d'esprit, mais que nous puissions comprendre à qui nous nous adressons. Et dire, Seigneur, viens ébranler même certaines certitudes que j'ai pour que ta pensée vienne dans mon cœur. Donc, on a vu ici qu'il y avait un lit, il y a également une table. Et la table nous parle, évidemment, de se nourrir. Je n'ai pas eu un amen, peut-être que... Vous pensez, quand j'ai dit se nourrir, déjà ce midi, qu'est-ce que je vais manger? Certains ont anticipé, peut-être le four est en train de tourner. Non, surtout pas, ne faites pas ça, hein, parce que si un jour il y a un souci, vous êtes pris ici, parce qu'il y a l'action du Seigneur, le poulet, il va être dans un drôle d'état. Hein. Évidemment, la table, et donc spirituellement, ça nous parle de nous nourrir et de manger. Et la Bible déclare même de la bouche de Jésus, « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Et puis, il va poursuivre dans l'évangile de Jean. Donc celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. En fait, ici, c'est on n'aura pas faim et soif d'aller nous abreuver ailleurs. Ce que le Seigneur va nous donner, nous serons de la satisfaction. Et même si c'est peu. Et d'ailleurs, souvent, ça commence par ça. Hein. Dire, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Je vous promets que si on attend un certain standing ou une certaine révélation, qu'à un moment donné, je sais pas, le Seigneur, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir donner complètement ma vie au Seigneur parce qu'il aura fait ceci ou il aura fait cela. Déjà, le Seigneur, il nous donne le souffle de vie. Non seulement il nous donne le souffle de vie, il nous donne la vie et la vie éternelle. Rien que ça, si le reste du temps que nous allons passer sur cette terre, il ne nous bénit pas, c'est amplement suffisant pour dire, Seigneur, je te loue. Parce que tu es digne, Seigneur. Et quand on a cette mentalité, alors le Seigneur nous donne par-dessus. Ça, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Et quand on parle de se nourrir, Dieu est là. Amen, il est présent et jour après jour. Et je lis partout dans la Bible. Non seulement il nous donne de la nourriture, mais il nous rassasie. Je ne sais pas quelle est la définition que vous avez de se rassasier. Un mot qu'on n'emploie plus trop, hein. Se rassasier. Moi, j'ai l'image déjà. Se rassasier. Et c'est ce que le Seigneur fait. Regardez, dans le plus grand discours du monde, de Matthieu chapitre 5, verset 6, donc les béatitudes, le Seigneur, à un moment donné, va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. On n'aura plus envie d'aller voir ailleurs. Même dans l'adversité, il est dit dans le fameux psaume très populaire, le psaume 23, quand on parle de table, même dans l'adversité, le bon berger dresse une table en face de nos ennemis. J'aime beaucoup, hein, en face, ça sous-entend, hein, je l'ai dit tout à l'heure, changer de camp, on a été transporté. On est en face, on n'est pas à côté. Que le Seigneur nous aide à savoir où est notre position. Hein. Pas de mélange avec le Seigneur, pas de compromission. Pas de compromis, de cœur pur, droit et donc simple par rapport à notre Dieu. 2 Samuel, chapitre 9, verset 7. David lui dit, il est parlé ici de Mephibosheth. Nous, on connaît la fin de l'histoire, mais quand on, voilà, hein, on essaye de réfléchir, on se dit, mais quand même. Alors, son grand-père décède, son père aussi. Et à l'époque, tout ce qui restait de la famille de royal, il fallait les exterminer. Alors c'est sûr que cet homme il vit dans la crainte. Et j'ai simplement pris 2 Samuel 9, 7, la fin. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, donc alliance, amitié, à Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et la fin, elle est extraordinaire. Et tu mangeras toujours à ma table. Quelle grâce d'être l'invité principal de notre Dieu. En fait, c'est ça l'image. Manger tous les jours à la table du roi. On n'est plus à quémander, à vivre comme des mendiants. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, avec des droits, des responsabilités également. Et on a ce privilège de toujours manger à la table de mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dans cette pièce, il y a également un siège. Et dans ce siège, donc, pour une chaise traditionnelle, ce n'était pas une chaise traditionnelle parce que le mot, quand on va scruter dans le sens original, on trouve que le terme hébreu qui est utilisé est celui qui veut dire trône. Dans cette pièce, ce n'était pas une chaise quelconque, c'était un trône, un fauteuil royal. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, position d'autorité. C'est une position spirituelle. Et donc, quand il y a ce siège, au lieu de le contempler comme une belle relique, hein, ou quelque chose d'extraordinaire. Notre responsabilité, c'est de pouvoir nous y asseoir. Il va servir à ça. Nous sommes invités également donc à embrasser les intérêts du royaume de Dieu, à vivre pleinement pour les cieux célestes. Amen. L'apôtre Paul l'avait compris, il voulait le communiquer donc aux Colossiens. Donc Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2, il nous dit « Si donc vous êtes ressuscité, si éventuellement, c'est ça le si, hein, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il y a un ordre bien établi ici. On voit cette opposition de Jésus assis à la droite de Dieu. Et donc, ici, l'exhortation, c'est de nous affectionner. Affection, ce mot-là, ça vient, ça nous parle à tous. Hein. S'affectionner, porter un regard minutieux. Est-ce que tu es regardé, examiné? Donc, s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, inversion des fois des valeurs. Il dit, ben, certains, bon, investissent pour la terre. Le Seigneur va dire, ben, il vaut mieux que vous puissiez investir pour le ciel. Parce qu'ici, ici-bas, les richesses, la rouille, la teigne, donc, elles vont passer. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on doit vivre, voilà, dans la pauvreté. Hein. D'ailleurs, la Bible, c'est pas ce qu'elle condamne. Mais c'est que quand il y a l'inversion des valeurs, que quand notre vie, c'est, on est omnibulé par ça. J'aimerais dire, des fois, voilà, si on est dans un travail, qu'on est omnibulé par ça, ben, c'est ce qui va prendre la place. Si on est dans les études et que la seule motivation, ça soit pour mon bien-être, il va y avoir aussi comme une inversion de valeur et ça va pas fonctionner. Parce que la parole de Dieu nous dit, ben, évidemment, il faut, hein, c'est pas ce que je veux dire, il faut étudier, avoir de l'ambition, mais c'est quand ces choses, si elles nous sont ôtées, on est comme abattu, c'est parce qu'en fait, on vit que par elles. Que le Seigneur nous aide vraiment à considérer le verbe asseoir dans la parole de Dieu qui a une portée profonde. S'asseoir avec quelqu'un, quand on s'assoit, on partage. Quand on s'assoit, on a les mêmes intérêts. Quand on s'assoit, on a les mêmes préoccupations. Et quand on s'assoit, il y a cette notion également d'engagement. Il y a également un avertissement pour nous tous dans également le psaume 1, verset 1, que nous connaissons bien. Tout d'abord, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Si ce verset, voilà, hein, on en change un peu la forme, ben, si on s'assoit à un moment donné avec les moqueurs, on ne peut pas être heureux. C'est ça, en fait. Séparation, une distance. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus côtoyer les connaissances, les personnes que nous côtoyons? Jamais de la vie. Au contraire, le conseil ce matin, ayez des amis qui ne sont pas au Seigneur, avec ce but de prier pour eux, pour qu'ils deviennent comme nous et qu'ils découvrent la grâce du Seigneur. Des fois, on a voulu véhiculer cette idée de vivre reclus. Attention, pour pas être contaminé. Frères et sœurs, si nous sommes dans la maturité, c'est pas ceux du monde qui vont nous contaminer. C'est le contraire qui doit fonctionner. Il faut qu'on donne du goût. Alors, la question, elle est celle-ci. Est-ce que je donne du goût? Est-ce que quand les personnes qui sont autour de moi ont envie d'être comme moi, est-ce que je suis un modèle? Bonne question, hein, chacun répondra pour lui. Que le Seigneur nous aide. Et puis, il y a un dernier ustensile qui est là, qui est tellement important. Il y a un chandelier. On l'a lu ensemble. Ce chandelier, ben, Lévitique 24, 4, Déjà, le Seigneur avait donné des directives à Moïse et notamment au souverain sacrificateur. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. On voit que le chandelier devait produire de la lumière jour et nuit. Quelle belle image pour nous, hein. Le Seigneur est venu nous éclairer, il a dit qu'il ferait de nous donc la lumière du monde. Et quand on pense donc au tabernacle, à ce chandelier qui était là, ce chandelier était alimenté par l'huile. Encore une fois, une image, l'huile, inutile d'aller plus loin, on sait que c'est l'image du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Alors, si on est rempli du Saint-Esprit, on va brûler continuellement devant l'Éternel. Alléluia. Et cela symbolise la présence de notre Dieu, la présence permanente du Seigneur. David, il va le dire parfaitement. Non, c'est même pas David, le psaume 119. J'ai marqué David, mais c'est même pas David. On ne sait pas. Donc, le psaume 119, verset 105, où il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia, la parole de Dieu qui vient éclairer nos cœurs. Et cette parole, ça c'est un miracle, elle a été faite chair. Cette parole, c'est notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme à la gloire du Fils unique venu du Père. S'il faut pas une révélation pour écrire ça. Un message qui venait directement du ciel. Le Seigneur est venu pour éclairer tout homme. Chaque homme que la terre puisse porter actuellement a besoin d'être éclairé. Il y en a qui le sont, merci Seigneur. Et ça va en grandissant, gloire à Dieu, amen. Il y en a tellement qui sont si loin de Dieu, qui sont dans les ténèbres. Et notre responsabilité, c'est que nous puissions toujours éclairer, être la lumière, être au contact du Seigneur. Je conclue en vous disant que ne délaissons pas et n'oublions pas la chambre haute. Au travers de ces enseignements, qui sont quand même, je trouve, assez riches, applicables aussi, parce que si ça serait que théorique, ça serait tellement dramatique, de pouvoir les appliquer ces choses-là, jour après jour. Cette chambre haute a été pour Élisée, et en particulier pour cette femme, le lieu de la guérison. Si on lit la suite, il va y avoir un miracle extraordinaire, parce qu'il y avait cette disposition de cœur. Un lieu de la résurrection de son fils. Extraordinaire, alléluia. Dans les évangiles, quand on parle de chambre haute, on voit que c'est un lieu de visitation. Jésus va venir dans cette chambre haute et il va dire « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Dans la chambre haute, c'est là où il y a eu la première communion, le premier repas avec le Seigneur. Donc, ils vont rompre le pain. Ils avaient une manière de procéder, qui était donc celle que nous décrit la parole de Dieu. Ça n'a plus trop rien à voir ce que nous faisons. Ce que nous avons fait ce matin. En fait, c'est même pas dans la manière. L'importance. L'importance, c'est le fond. L'importance, c'est de nous souvenir que Christ nous a sauvés. Que Christ a donné sa vie à la croix du calvaire pour nos péchés. Si quelqu'un ce matin a pris le pain et le vin sans considérer ces choses-là, vous avez pris le pain et le vin indignement. C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est pas moi. Peut-être qu'on a besoin de se refocaliser et de rechercher le Seigneur. Alléluia. Donc, cette chambre haute de communion, la Sainte Cène, également d'onction. On ne peut pas parler et penser à la chambre haute sans penser à Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit à la chambre haute. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que moi, j'ai une chambre, même si elle n'est pas haute, vous avez compris, hein, c'est spirituellement s'élever, parce qu'aujourd'hui, les constructions, nos maisons sont construites différemment. Un dernier verset, Matthieu 6, 6. Facile à retenir. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte à toute distraction. Je rajoute, éteins ton portable. et prie qui ? Ton Père. Le Père, il est où ? Il est là. Il nous attend. Il est là, dans le lieu secret. Et si on fait ces choses-là, et ton Père, qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il fera ? Il te le rendra. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Cette parole, elle vient nous bousculer, Seigneur. Elle vient remettre vraiment la priorité dans nos vies. Seigneur, je te prie ce matin qu'il n'y ait pas de résistance. Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui réagit en s'endurcissant encore davantage. Seigneur, je t'en supplie que ta parole, tu puisses la confirmer maintenant, Seigneur, et qu'elle puisse pénétrer le cœur, les cœurs les plus durs. Enfin, qu'il y ait un changement. Seigneur, tu reviens pour une église en bonne santé, une église debout, une église triomphante, une église unie, Seigneur, vraiment sous ton étendard. Seigneur, que nous puissions pas nous laisser distraire par tout ce que le monde peut nous apporter. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes résolus à implorer ta grâce, à nous retrouver régulièrement dans la chambre haute, individuellement, mais également collectivement, en église, quand les réunions sont là, Seigneur. Que nous puissions prendre nos précautions pour dire, c'est important, je veux être là. Seigneur, change nos mentalités, bouleverse nos cœurs, nos certitudes. Seigneur, et je veux t'apporter, nous tous qui sommes là ce matin, qui avons entendu ce message, tu ne parles pas aux absents, tu parles peut-être à une seule personne au milieu de nous, Seigneur, tu m'as parlé cette semaine. Seigneur, que nous puissions obéir, qu'il n'y ait pas de désobéissance, de nonchalance, de laxisme, de dureté de cœur, mais des cœurs malléables, des cœurs contrits, Seigneur, c'est là où tu vas donner ta bénédiction. Seigneur, j'ai prié, je crois que tu vas agir puissamment. À toi la gloire et l'honneur. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié.